Bonjour à tous, mesdames, messieurs, auditrices, auditeurs de l'EJT Foot, le podcast consacré à l'actualité du Toulouse Football Club. On se retrouve pour l'épisode 3 de la saison pour parler de la série noire du TFC. Ça ne va plus du tout, messieurs. Dimanche soir au Stadium, l'Olympique de Marseille est venu s'imposer 2-0. C'est la quatrième défaite consécutive en Ligue 1 pour Toulouse, 19e et plus que jamais en danger. Alors, on reviendra sur cette triste défaite face à l'OM, puis on se posera la question qui fâche. Faut-il cette saison s'inquiéter davantage que les précédentes pour le maintien? On clôturera le débat sur l'impact d'Antoine Comboiré dans le vestiaire depuis son arrivée le 14 octobre. Et enfin, on attribuera nos traditionnelles récompenses avant de répondre au quiz de Julien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de JT Foot, votre nouveau podcast. Avec moi autour de la table, Corentin, Axel et Arnaud. Comment ça va les gars?
Bonsoir messieurs.
Ça va nickel. Bonsoir, et toi?
Ça va. Ça va bien, 19e, vous allez bien?
On a connu mieux, mais on essaye de positiver.
On a connu mieux, ouais. Heureusement pour vous, chers auditeurs, Hugo a préparé le TEF Actu.
Allez, c'est parti, et on commence ce TEF Actu avec une mauvaise nouvelle pour la formation du TEF. Le groupe élite instauré en début de saison est censé regrouper les meilleurs jeunes du centre de formation avec le groupe pro touche à sa fin. C'est ce que nous apprend le site lesviolets.com. Antoine Comboiré a donc décidé de ne plus mettre à disposition le staff pro pour les 13 jeunes qui y sont concernés. On peut citer Diakité, Koné, Goncalves, Diarra et Sidibé, tous déjà alignés au moins une fois en Ligue 1 et qui continueront tout de même de s'entraîner avec le groupe professionnel. Pour le reste, retour en réserve. Un petit tour et puis s'en va, les féminines du TFC se sont inclinées 4-1 sur la pelouse de Montauban à l'occasion de leur entrée en lice en Coupe de France. C'est Sarah Moukoudika qui a inscrit l'unique but des Violettes en toute fin de partie. Et puis on parle un petit peu médias, 1,1 million, c'est le nombre de téléspectateurs qui a suivi la rencontre contre l'OM ce dimanche sur Canal+. A titre de comparaison, la rencontre entre le TFC et le champion en titre, le PSG en août, avait réuni 1 million de personnes. A noter le nombre important de Marseillais qui ont fait le déplacement dans le parcage visiteur comme dans les tribunes du stadium. Résultat, meilleure affluence de l'année avec 23 000 de spectateurs présents ce dimanche. Et puis, dernière petite nouvelle avec les propos polémiques de Pierre Ménès. Le consultant vedette de Canal Football Club a critiqué les supporters toulousains après le match, alors qu'une réunion entre les joueurs et les Indians avait lieu à la fin de la rencontre. Le journaliste a déclaré, je cite, « Pourquoi les joueurs y vont, surtout dans ce stade de mort où il y a 3 spectateurs qui se battent en duel? Il n'y a jamais eu d'ambiance au stadium et quand il y en a, c'est toujours pour l'adversaire. Ça ne doit pas être très rigolo de jouer à Toulouse. » Des critiques qui n'ont pas manqué de faire réagir donc la twittosphère et également Antoine Comboiré en conférence d'après-match. On l'écoute.
Ils ont demandé des explications, donc ils sont allés là-bas discuter avec eux. C'est les retours que j'ai eus là. Après, je comprends la déception, la colère des supporters. Voilà, c'est bien qu'ils soient là pour nous secouer un peu. Après, il y a justement à faire attention. Il y a des limites à ne pas dépasser, c'est tout.
Voilà, c'était la réaction du coach Canac après le match de l'OM. Et puis, pour moi, c'est tout, voilà.
Ouais, merci Hugo.
De rien.
Allez, dans le cœur du jeu, dimanche soir, le TEF recevait l'OM au Stadium pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Un match pauvre pour les hommes de Comboiré qui n'ont eu que 27% de possession sur les 90 minutes. Une seule occasion franche, Toulouse a même joué à 10 dès la 40e minute après l'exclusion de Moreira sur un méchant tacle au niveau du genou de Bounassar. On n'a pas très bien compris, mais l'OM a su en profiter en seconde mi-temps et a inscrit 2 buts coup sur coup à la 76e et 79e par Benedetto dans un premier temps, puis Radonjić ensuite. Score final 2-0. Nos journalistes étaient présents au Stadium dimanche. Alors après 3 défaites consécutives, on pouvait s'attendre à un sursaut d'orgueil. Il n'y en a pas eu. Comment vous analysez cette défaite?
Bah écoute, c'est un peu difficile de tirer des conclusions sur ce match parce que, comme tu l'as expliqué, il y a eu un scénario assez particulier avec l'assassinat de Moreira qui a pourri le match. Et c'est dommage parce que finalement, moi j'ai vu des choses encourageantes, surtout entre la 20e et la 40e minute, moment dit de l'assassinat.
Mais j'ai bien aimé l'attitude du TEF, notamment pendant les 35 minutes à 10. Ils ont continué à essayer de jouer les contres. Bah, on a vu notamment la tête de Sangaré qui a été très bien sortie par Mandanda, mais qui est la seule occasion franche, mais qui a une très belle occasion.
Sublime centre de Dosévi.
Et ils ont bien tenu sans trop être mis en danger jusqu'à la 75e. Et là, ça craque à cause d'erreurs défensives, mais aussi parce que c'est l'OM en face et que tu joues à 10 et c'est compliqué. C'est une équipe qui est bien meilleure, c'est une équipe qui était favorite au départ, et quand tu joues une mi-temps à 10, c'est compliqué de leur en vouloir, moi je trouve, sur ce match, et c'était compliqué de réagir.
Non, c'est vrai que c'est compliqué de leur en vouloir, parce qu'ils font quand même un match qui est assez intéressant. D'ailleurs, Antoine Comboiré, en conférence de presse par rapport à ça, il l'a dit comme ça, qu'il était un petit peu fier de ses joueurs.
Toulouse, intéressant, dimanche soir.
J'ai vu que choses intéressantes aussi.
En tout cas, il était fier du match. Enfin, en tout cas, Comboiré était fier du match que okay. son équipe avait fait. En revanche, bien évidemment, je pense qu'il y a encore des choses à changer. Mais il y a eu des satisfactions. Je pense à Dosévi, par exemple, qui encore une fois est un très bon artificier en ce qui concerne parfois les coups de pied arrêtés, mais surtout les centres.
Les centres, meilleur centreur de Ligue 1.
Meilleur centreur de Ligue 1. Sangaré.
Plus de centres.
Oui, Sangaré qui au milieu de terrain a fait du bon travail, et Sanogo qui a essayé de faire tant bien que mal, qui a essayé de mettre la tête et de profiter de sa taille pour embêter les défenseurs marseillais. Une charnière inédite d'ailleurs, parce que Perrin et Camara, même s'ils jouaient chez les jeunes ensemble, c'est la première fois qu'ils étaient alignés. André Villas-Boas, c'est la première fois qu'ils étaient alignés en Ligue 1, une défense jeune, donc il y avait peut-être des opportunités, et un attaquant d'expérience comme Sanogo aurait pu faire la différence.
Charnière inédite des deux côtés d'ailleurs, parce que Simat Mirin et Agustin Rochel n'avaient jamais joué ensemble non plus.
Non mais c'est ça, c'est un TEF. Honnêtement, moi j'ai peut-être cru au nul au bout d'un moment, j'ai peut-être été un peu naïf, parce que vu le TEF depuis le début de la saison, faut pas trop s'emballer. Mais vous l'avez dit, juste avant le carton rouge, moi j'ai vu un TEF qui était très bien entré dans ce match, qui avait apporté l'impact physique, qui emmerdait Marseille, qui empêchait Marseille de jouer. On sentait que Marseille ça ne se trouvait pas. Alors ils ont pas su profiter de la jeunesse et de l'inexpérience de la charnière marseillaise, mais en tout cas dans le milieu, on a vu que les absences marseillaises ont posé problème à cette équipe de Villas-Boas. Toulouse a malheureusement pas su en profiter jusqu'à la 40e. Et après, bah voilà, deux erreurs défensives. C'est même pas le physique en fait qui a craqué et qui a amené les deux buts. C'est deux erreurs défensives, deux erreurs de placement où on sait pas trop ce que ça fait. Et hop, ça enchaîne deux buts.
C'est deux
erreurs totalement évitables. Oui. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, le nul est prenable même à 10.
Mais c'est ça qui est paradoxal en plus. C'est qu'à la 71e, c'est vraiment la plus grosse occasion du stade.
Du Mars, au stadium. Ça change tout, quoi.
Tu marques, ça change tout. Mandanda est impérial sur sa ligne. René a aussi fait de très bons arrêts.
Notamment si on parlera avec la tête de Perrin.
En tout début de match.
Mais on a eu l'impression que c'était, par exemple, la montée d'adrénaline, l'occasion à la 71e de Sangaré, et que derrière, la chute. Plus dure est la chute. Et ouais. Benedetto en a profité.
La chute a été d'autant plus brutale qu'elle a été soudaine directement après l'occasion. En fait. Ils ont
3-4
eu une occasion,
minutes,
on s'est dit, ah putain, peut-être que Toulouse peut marquer. Et non, l'OM ouvre le score juste derrière, et là, mentalement, après, c'est difficile.
Après, c'est ça, hein, ça s'écroule automatiquement. Quand tu y as cru, tu as tenu en infériorité numérique. Le moment où tu prends ce but, tu craques.
Petit ascenseur.
Derrière, ils en prennent un, quoi, 3-4 minutes après. Et encore 3-4 minutes après, Rongier pas loin d'aller mettre le 3-0. Enfin, ça aurait pu encore plus mal se passer pour le TFC, cette histoire. Et c'est vrai que, comme dit Axel, c'est paradoxal, parce qu'à un moment, Arnaud d'ailleurs, à un moment on y a cru et on s'est dit, tiens, ils vont peut-être aller réussir à chercher ce tu le vois, un hold-up, on y croyait peu, mais on sait jamais.
Et puis il y a l'erreur, et puis il faut le dire, hein, sur la première passe, c'est des joueurs comme ça, mais Payet, ça passe pour Benedetto. Alors oui, il y a l'erreur de la défense marseillaise, mais il faut aller la chercher.
Il faut la trouver, la passe.
Et c'est des joueurs comme Payet qui font la différence.
On a constaté de toute façon que le but de Benedetto, il y a et ici Matt Mirin et Rochel qui sont très mal placés, et Kelvin Amion qui se loupe complètement en laissant Benedetto partir dans son dos. À partir du moment où tu as trois défenseurs qui se trouvent sur la même occasion, c'est compliqué.
Ok, on va avancer. Moi, de mon côté, j'ai été surpris par les choix de Comboiré. Je m'attendais vraiment à voir Koné titulaire. Il n'est pas rentré. Pour vous, c'était justifié, Boigard dans le 11?
Moi, j'ai bien aimé la compo de Comboiré. À part Morera, bon, ça.
Bon,
ça,
oui, c'est mais
moi, je voulais pas de
parlons,
Morera.
Parlons du milieu de terrain un petit peu, Corentin.
Je trouvais que c'était osé, que c'était ambitieux. Mais c'était pas mal et j'ai surtout trouvé qu'on avait retrouvé Sangaré qui faisait un début de saison qui était très compliqué. Il y avait sûrement la canne qui lui pesait un peu dans les jambes aussi. Et bah, j'ai beaucoup aimé son match. Alors j'étais effectivement surpris de ne pas voir Koné titulaire parce que ça faisait... il avait été titulaire les deux dernières fois et tout le monde avait salué ses prestations qui étaient assez encourageantes. Mais l'idée d'associer Eboigard et Sangaré, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et qu'ils sont bien débrouillés, notamment sur la projection en contre.
Ouais, mais malgré ça, le début de saison de Toulouse est très compliqué. 14 matchs, 12 points seulement, 8 défaites déjà pour 3 victoires et 3 nuls. Est-ce que c'est l'année de trop pour Toulouse en Ligue 1? Est-ce qu'il faut s'inquiéter cette année?
Non, moi je pense pas. Moi je suis peut-être un éternel optimiste, mais je pense qu'on n'est qu'à la 14e journée. Je pense qu'il faut laisser quand même Antoine Comboiré faire son travail. Je sais que peut-être d'autres de mes collègues vont le dire autour de cette table, le calendrier s'annonce un petit peu difficile, mais en même temps on est dans une Ligue 1 qui est quand même assez serrée, à part le PSG qui est dans une autre galaxie, Marseille, Bordeaux, Nice, ils se tiennent en quelques points, et Toulouse, ils ne sont pas si loin que ça de Dijon qui est 17e. Donc je pense que en plus, Toulouse a un effectif pour être dans la première moitié, pour moi, être dans la première moitié de Ligue 1. Donc non, moi je ne m'inquiète pas pour le TEF.
On a quand même une Ligue 1, tu l'as dit Axel, qui est cette année, enfin encore plus que les autres années, j'ai l'impression vraiment, vraiment très faible. Alors d'un point de vue général, on doit peut-être s'en inquiéter aussi pour le foot français, mais on le voit, les clubs passent très rapidement de la 16e place à la 10e place. Enfin, ils gagnent 6 places en gagnant 2 matchs d'affilée ou même juste un match. On le voit, Ekongé qui est 3e, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là?
Bah, ils font un très bon
début. Ils font un très bon match. Je critique absolument pas Angers, mais il y a des équipes qui sont pas à leur place. Hein. Je pense à Lyon, je pense à Saint-Etienne qui va un peu mieux, mais on l'a vu, Saint-Etienne a enchaîné des bons résultats avec Puel. Ils sont remontés très vite.
C'est pareil, ça, Marseille qui était en difficulté au final il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, 3 victoires d'affilée, ils sont seuls 2e.
Donc en fait, j'ai pas envie.
Nantes qui descend, elle est bizarre.
C'est ça, j'ai pas envie de m'inquiéter pour ce point-là, pour le moment en tout cas, le fait si Toulouse et Antoine Comboiré arrivent à mettre en place quelque chose et aller prendre des points, notamment chez des équipes, chez des concurrents directs on va dire au maintien, mais même chez des équipes de milieu de tableau, bah, le TEF peut très vite, on va dire, retrouver une certaine bouffée d'oxygène et se retrouver au-delà de la plage de barragiste, mais assez facilement. Ouais.
Je suis plus inquiet que vous, moi. Parce que effectivement, si le classement n'est pas encore inquiétant, il y a 3 points de retard sur Dijon, 4 sur Amiens, c'est pas effrayant. Mais le problème, c'est que le classement serrier, lui, il est extrêmement corsé jusqu'en février. J'ai regardé Nantes, Monaco, Strasbourg, Reims, Nice et 2020, Brest, Lyon, Amiens, Strasbourg, Marseille, Nice, Lille et Rennes. Donc là, tu peux vite tomber dans un espèce de trou noir, une spirale négative dont tu te remets pas derrière. Et si t'es à 15 points, 16 points, arrivé en début mars... Là, ça peut être extrêmement compliqué.
Non, mais tu vas pas être à 16 points après, début mars.
Parce que après du côté de Dijon...
Peut-être pas 16, peut-être 18, 19.
Après, Corentin, c'est le pire début de saison de Toulouse depuis la saison 2015-2016. Vous vous souvenez? Celle où ils se maintiennent au dernier journée, moment sur un sublime coup franc de Bodigé.
Ouais.
Sous Duprat.
12 points en 14 matchs, quand même. C'est faible.
Là, oui. C'est extrêmement faible. Après, comme je disais, il y a un aspect rassurant. C'est que... t'as quand même un bon effectif qui normalement ne doit jamais se retrouver dans ce classement-là et dans cette position-là, et que t'as Shoji et Diakité qui vont revenir à un moment, donc la défense devrait aller mieux, mais quand même, Comboiré est arrivé, il y a 5 matchs, c'est une victoire, 4 défaites, dont une très inquiétante à Montpellier, et on se ressent pas encore l'effet Comboiré, moi je
après il faut aussi regarder les adversaires, hein. Dijon, Amiens, c'est pas, alors ça produit peut-être un peu plus de jeux, c'est peut-être un peu plus plaisant à regarder, mais dans tous les cas ça fait pas les scores enfin ça fait pas les matchs, ça gagne pas les points pour distancer Toulouse aussi au classement, donc pour le moment Toulouse est chanceux d'avoir des concurrents directs au maintien qui font pas...
Non, mais parce que aussi quand on regarde les effectifs d'Amiens et Dijon, normalement c'est les effectifs qui doivent descendre ou en tout cas être derrière le TFC, donc c'est logique qu'ils les distancent pas. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que le TFC n'a pas été capable de gagner les matchs qu'ils auraient dû gagner, comme contre Metz, contre Nîmes.
Metz, ils doivent être derrière Toulouse.
Il y a des
ça
équipes...
Ça fait déjà pas mal d'années, les gars.
Il y a, contre Brest aussi, il y a quand même un certain nombre d'équipes qui sont moins fortes que le TFC, que le TFC aurait dû battre, et ils l'ont pas fait, donc là ils se mettent dans cette position qui est compliquée. Et il va falloir faire beaucoup mieux contre ces mêmes équipes en deuxième partie de saison, parce que sinon, là, on va pouvoir vraiment s'inquiéter.
On l'espère,
s'inquiéter.
Parce que ça fait quand même 4-5 ans que ça joue le maintien. Il y a un moment donné, si quelque chose ne change pas, ils vont finir par descendre. On espère que ce ne sera pas cette année. En tout cas, depuis 5 matchs, Antoine Comboiré est l'entraîneur de Toulouse. Après une première victoire face au LOSC, il a enchaîné 4 défaites. Antoine Comboiré.
Ça fait donc pratiquement, sur les derniers matchs, 3 buts encaissés par match, en moyenne. Donc voilà, aujourd'hui, je cherche une défense, je cherche ma défense. Voilà. La concurrence, elle est à tous les postes, les choix que je fais.
Sur le premier match de Ligue 1 de Comboiré à Toulouse, on le disait face au LOSC, on s'est dit quel magicien, une équipe conquérante qui n'allait pas bien mais qui d'un coup va vite vers l'avant, un 4-4-2 qui va plutôt bien à ses joueurs et finalement le jeu, les défaites s'enchaînent et là depuis cette défaite 3-0 à Montpellier il y a 2 semaines, on a l'impression que l'impact Comboiré est réduit à néant. Est-ce qu'il a vraiment de l'impact justement dans le vestiaire de ses joueurs Comboiré?
Je pense que déjà il faut déjà qu'il trouve un système tactique déjà défini. Alors au vu du match face à Lille et au vu même du match face à Marseille, je pense personnellement que le 4-4-2 est le système que Toulouse devrait garder, enfin qu'Antoine Comboiré devrait garder jusqu'à la fin de la saison. Je trouve que bon, c'est un système qui est simple, hein. Ça fait 2 lignes de 4 et au moins l'équilibre est à peu près maintenu sur l'équipe.
Puis la seule fois qu'il a tenté le 4-3-3 à Montpellier, ça s'est fini avec une grosse correction. Et un TFC surtout c'était la moins bonne performance dans le jeu du TFC et de loin sous Comboiré. Hein.
Après, il l'a dit en conférence de presse d'après-match, il l'avait aussi dit en avant-match, il se cherche une défense. Et quand on regarde les dernières défenses du TFC, je me suis amusé à regarder, en fait, il y a des joueurs qui sont à peu près tous alignés, il y a déjà eu les 4 mêmes joueurs alignés en même temps, mais le problème c'est qu'ils n'ont jamais été alignés au même poste. Alors à part Izimat Mirin qui est à peu près aligné tout le temps défenseur central, Kevin Amiens passe de temps en temps à droite, de temps en temps au centre, et ce qui fait que on le sait, c'est quand des équipes vont mal, ils se cherchent une défense, il faut une charnière, au moins une charnière solide, et là le TF n'a pas de charnière, n'a pas de repère défensif, et donc déjà là la base de construction est déjà tronquée, quoi.
Et là ça c'est comme on disait, ça après c'est les blessures, c'est comme ça, c'est qu'il est un peu obligé de bricoler. Casanova avant devait faire aussi pareil. Amiens, les fois où il joue central, c'est clairement pour dépanner, sinon c'est à droite qu'il est censé jouer, et d'ailleurs on préfère largement voir un Amiens qu'un Moreira sur le terrain.
Mais l'an dernier on avait possibilité de voir Cahuzac redescendre. C'était sans envoyer du bois.
Quand ça joue en 3-5-2, ouais, à ce moment-là. Ouais. Mais bon. Et Cahuzac nous a offert quelques excellentes performances. En tout cas, là, moi, j'ai quand même vu un espèce d'effet Comboiré, parce que dans l'attitude, même dans ce que proposait le TFC dans le jeu, il y a eu des choses vraiment meilleures dans les dernières rencontres. On l'a vu à Lille, on l'a vu à Lyon, on l'a même vu là. Moi, j'ai trouvé que contre Marseille, il y avait du mieux aussi. Le souci, ça reste cette défense, on en a déjà parlé, on verra avec les retours de blessures. Et sinon, à voir si Antoine réussit à maintenir le moral de ses troupes malgré les défaites. Parce que là, on a vu un effet dans le jeu, maintenant, vu que ça ne gagne pas, est-ce que l'effet va perdurer ?
Maintenir le moral, peut-être. En tout cas, moi, j'ai été surpris de sa déclaration en conférence de presse. Moreira a pris un rouge amplement mérité. On écoute la réaction de Comboiré après le match.
Là, ce soir, il a été emporté un peu dans son élan. Là. Il avait trop voulu bien faire. On a beaucoup insisté sur le fait que il y a beaucoup d'énergie dans ce match-là, il y a beaucoup d'envie. Il faut canaliser donc ses émotions. Il faut savoir se contrôler. Moi, je ne lui en veux pas, donc il reviendra et puis il nous fera gagner les matchs. C'est ce que j'attends de lui.
Je lui en veux pas. Étonnant ça quand même, non ? On connaît le tempérament de Comboiré, on sait qu'il a pas l'habitude d'être tendre, et là bizarrement il reste plutôt calme. Il fallait pas lui tirer les oreilles à Moreira ?
Je pense surtout que là vraiment Toulouse ils sont dans une spirale qui est vraiment négative et qu'il a essayé de minimiser les risques, parce que le tacle à vitesse réelle ou au ralenti de Moreira sur la rotule du pauvre Bounassar
qui allait en touche,
c'était assez difficile, et oui, quand on est professionnel, quand on est défenseur, on n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur-là, quoi. Donc je pense que c'était vraiment pour minimiser cet effet-là et éviter de mettre plus de poids sur la charrette du TEF en ce moment, qui est très bien chargé.
Puis de toute façon, ça fait un an et demi qu'on le voit, Moreira, il n'est pas bon quand il joue, il est mauvais, c'est une passoire, donc bon, il peut lui tirer les oreilles ou ne pas le faire, est-ce que ça va changer grand-chose ? Je ne suis pas convaincu de toute façon.
Ouais, Axel l'a dit, moi je pense que ça sert à rien de tirer sur l'ambulance, en plus en conférence de presse d'après-match, sur un match face à Marseille qui est très médiatisé, donc Je pense que ça a peut-être grondé dans le vestiaire, je l'espère, parce que on l'a dit, hein, le TEF était très bien rentré dans ce match et que le nul apparaissait possible. Donc après, est-ce qu'il faut lui en vouloir? Nous, on lui en veut en tout cas. Après, Antoine Comboiré gère son effectif, je pense, comme il veut.
Puis moi, j'en veux surtout à Comboiré d'avoir titularisé Moreira au lieu d'Amiens qui était disponible. Mais non, mais vu qu'il est rentré, c'est qu'Amiens était disponible et capable de jouer.
Ça.
À ce moment-là, pourquoi tu ne titularises pas Amiens qui, à défaut d'être exceptionnel, est quand même beaucoup plus rassurant ou beaucoup moins inquiétant à défaut?
Ok, merci messieurs. On a assez parlé de Comboiré dans cet épisode. C'est l'heure de donner des récompenses aux joueurs.
Trop nul. Je pense qu'il n'y a que moi qui étais nul.
On adore ce jingle-là. Eh bien, nous sommes tous rassurés autour de ce plateau. Bon, rapidement les gars, qui des 11 titulaires toulousains sera votre magret, le meilleur joueur, la violette, cette touche de fraîcheur et la saucisse qu'on pourrait aussi rappeler la pompe à vélo? Alors les gars, un magret?
J'ai mis Isimat Mirin. Ça a été assez compliqué d'en trouver un. Parce que j'ai hésité entre deux, finalement j'ai mis l'autre dans la violette, mais... J'ai mis Isimat Mirin parce que je trouve... Alors oui, il y a ses erreurs défensives à la fin, il est contestable, mais je trouve que de la défense, c'est celui qui m'a le plus plu. Je trouve qu'il a, au début de match, il a pas mal rassuré, il a eu 2-3 interventions intéressantes et qu'on fait du bien à la défense du TEF. Donc là-dessus, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon magret, mais après... Je pense que le choix est contestable et je pense qu'il y en a d'autres, ouais, j'en suis conscient.
Ouais, j'aurais pu mettre Isimat Mirin parce que j'en parlais avec des collègues d'autres médias à la mi-temps et c'était la première fois de la saison qu'on trouvait qu'Isimat Mirin faisait une bonne performance, qu'on trouvait rassurant, il faisait les bonnes interventions. Mais il est coupable, c'est pas ça. Tout seul, ils sont trois, mais il est coupable sur l'ouverture du score marseillaise qui derrière finit de plomber le match. Donc je pouvais pas le mettre. Moi j'ai mis Ibrahim Sangaré qui, comme je disais plus tôt dans l'émission, est retrouvé. D'ailleurs c'est ce qu'a dit Comboiré en conférence de presse, l'a dit: j'ai retrouvé Ibrahim Sangaré sur ce match. Et on est d'accord, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi tranchant, capable de se projeter vers l'avant. Et donc j'ai envie de récompenser ça parce que ça va nous faire plaisir à tous. Si Sangaré est capable de retrouver son niveau, ça va faire beaucoup de bien à l'entrejeu du TFC.
D'autant qu'il aurait pu, On lui en aurait voulu s'il l'avait fait, mais il aurait pu, entre guillemets, bouder, parce qu'on le rappelle, il était qualifié pour les demi-finales de la CAN U23 avec la Côte d'Ivoire. Et avec la suspension de vainqueur, le TFC lui a demandé de rentrer pour jouer face à l'OM. Résultat, son équipe a perdu en finale, d'ailleurs.
Perdu en finale, c'est
ouais,
ça,
ils ont perdu en finale, et ben, du coup, lui, il n'a ni joué la demi ni la finale. Donc, ouais, on est content.
D'ailleurs, il avait dit qu'il était déçu et que lui, il aurait préféré rester et jouer. Et on s'interrogeait un peu sur l'état d'esprit qu'il aurait. Mm-hmm. Et bon, apparemment, revanchard du moins, donc c'est bien qu'il continue comme ça.
C'est bien.
Alors moi, mon magré, ça va être Dosevi, parce que j'aime toujours autant ce joueur. Il est d'une élégance, rare. On en a parlé avec Clément tout à l'heure. C'est le meilleur centreur de Ligue 1. Il a toujours été là sur son côté droit. Il a même pendant 2-3 minutes, il est même redescendu arrière droit après l'expulsion de Moreira. Mais sinon, des centres, bon, bien placé, dangereux, c'est lui qui amène la balle de but qui malheureusement n'est pas concrétisée pour Sangaré, mais il a toujours été dangereux, il a toujours été dans les bons coups, des bons décalages, voilà, bon, pour moi ça coule de source de Séville, quoi.
Une violette?
J'ai mis Sangaré dans la violette parce que, alors...
Pour les mêmes raisons que Corentin?
À peu près, c'est ça, je trouve qu'il a fait énormément de bien l'entrejeu du TEF, il a apporté de l'impact, il a bien soulagé la défense aussi quand elle en a eu besoin, et elle en a eu pas mal besoin face à Marseille. Et puis bah, bon, il y a sa tête qui est arrêtée par un très bel arrêt de Mandanda, mais voilà, je trouve que bah, c'était quasiment le meilleur, et il revenait, Corentin l'a dit, il y a eu cette petite histoire avec la Côte d'Ivoire. Il l'a montré qu'il était là et il fera plus que du bien à l'entrejeu du TEF s'il continue sur cette lancée-là pour la saison.
En plus, il y avait fort à faire dans la défense, dans le milieu de Marseille, parce que grosse prestation de Rongier. Sanson n'était pas mal non plus, mais Rongier a aspiré tous les ballons, il a gratté, il s'est projeté vers l'avant. Il est à deux doigts d'alourdir la marque.
On ne va pas commencer à parler de l'OM, mais Rongier fait un très bon match. Début de saison, enfin un début de saison compliqué, mais là il commence à bien s'adapter au jeu marseillais,
ouais,
c'est pas mal.
Pour ma violette, du coup...
tu prends la place de Corentin, Non mais vas-y, je t'en prie.
Pour ma violette, du coup, Baptiste René, je pense qu'il a été auteur de très bons arrêts, de la part contre Rongier, encore une fois. et surtout en début de match contre Lucas Perrin. On ne sait pas si c'est de la jambe, de la main.
C'est réflexe manchette. Ouais.
Sachant qu'il arrive, il est pris à contre-pied, il a dégage au dernier moment. Je trouve que par rapport à l'année dernière, encore une fois, où il était en concurrence avec Goycochea, cette année, Baptiste René fait malgré la 19e place du TEF, fait un très bon début de saison. Donc pour moi, voilà, c'est lui qui a été un des artisans au fait que le score n'était pas plus lourd que ça pour le TEF, quoi.
Et j'ai choisi René aussi, et comme Axel en a très bien parlé, je n'ai rien à rajouter.
Ok, ben les gars, rapidement, alors votre saucisse, sans trop vous étaler, parce qu'on a compris un petit peu.
Je pense qu'on est unanime là-dessus, hein, mais Moreira. Pour son rouge, hein, parce que je pense qu'il a bousillé quasiment tout le match du TEF, parce que bah, on l'a déjà dit, mais le TEF était plutôt pas mal
sur
ce match-là, donc moi j'ai mis Moreira.
Oui, moi aussi, c'était déjà le défenseur que je trouvais le plus à la rue sur les 40 premières minutes, et en plus, ce tacle où il perd complètement la boule. Pourquoi il lève le pied pour le mettre sur le...
Incroyable.
Il est déjà en retard, il y va comme une fusée, il pourrait se dire « Ouh, j'essaye de limiter la casse », et non, il lève le pied pour le mettre sur le genou de son adversaire, donc j'ai rien à dire. Saucisse Moreira, et puis j'en ai suffisamment parlé, je pense, au cours de l'émission.
Mais moi, c'est pas Moreira, messieurs, ce sera plutôt Rogel. Une saucisse originale, je sais que vous êtes très souvent surpris par ma saucisse, mais pour moi, Rogel est fautif sur les deux buts. Sur le premier but, c'est lui qui se fait aspirer par Payet, et Payet en profite pour donner la passe, même si Izimat Mirin est aussi fautif et que Kelvin Amian laisse partir Medvedeto dans son dos. Et sur le second but, Radonjić, qui n'est pas forcément un joueur excellent non plus, pour ma part, mais il se fait complètement enrhumer par Radonjić. Il recule, il est lent.
C'est rare, hein, pour se faire enrhumer par Radonjić.
Radonjić, ça fait un an et demi qu'il a pas
marqué. Mais Rogel a réussi.
Et Radonjić, ça faisait un an et demi qu'il est à l'OM, qu'il n'avait pas marqué.
C'est pour ça qu'il lui a redonné confiance, il est gentil.
Il a lancé une carrière. Hein.
Il est lent en plus.
Non, mais c'est vrai que Rogel a tapé très fort à la porte de la saucisse aussi. Hein.
Ok, alors malheureusement, avec le TFC, on a très peu de mal à trouver les saucisses chaque semaine dans notre émission, mais on espère que ce ne sera pas le cas ce week-end contre Nantes. Pour la 15e journée de Ligue 1, Toulouse se déplace à la Beaujoire, des Canaries en difficulté également. Ils n'ont pas gagné depuis la 9e journée le 5 octobre, depuis ces 4 défaites, un match nul. Vous pensez que le TFC peut se relancer là-bas ou pas?
Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est plutôt le TFC qui a tendance à relancer les autres équipes généralement. Après, voilà, effectivement, comme tu l'as dit, Nantes n'est pas sur une bonne lancée. Ils sont même vraiment en difficulté. Et je rappellerai juste que l'année dernière, le TFC avait réussi à battre Nantes à la Beaujoire 1-0. Mmh. Mais ils avaient su profiter d'un carton rouge très tôt en première mi-temps sur une grosse semelle sur Gradel. On espère que le scénario sera similaire dimanche prochain. Mais sinon, si c'est vrai que je ne suis pas très optimiste. Après, ils ont plutôt bien joué contre Marseille. On se dit que s'ils jouent de la même manière à 11 contre 11, peut-être qu'il y a la place.
Les déplacements à la Beaujoire, c'est jamais très simple. Quelles que soient les équipes qui y vont, enfin, le Paris Saint-Germain a déjà été mis en difficulté, le Marseille aussi, les gros, ils vont, c'est jamais simple. Donc on verra. Après, Nantes, tu l'as dit, vous l'avez dit, ils sont dans une bonne spirale négative en ce moment.
Ils ne sont pas en difficulté en termes de points.
C'est ça, mais dans le jeu, c'est très faible, c'est pauvre, ça ne gagne plus, ça n'arrive plus à gagner, ou ça fait match nul. Donc il y a moyen, au moins, je pense qu'il y a moyen d'aller récupérer un point là-bas si les petites éclaircies qu'on a vues face à Marseille se concrétisent sur 90 minutes et sans faire de conneries en prenant un rouge.
Alors après, attention.
Il lève le doigt,
parce que oui, c'est mes vieilles habitudes. Alors après, attention. Je pense que Nantes arrive quand même avec un petit bagage de confiance, parce qu'ils ont mis une belle tollée au Paris FC en semaine en Coupe de France.
Ouais, enfin, c'était il y a deux semaines. Hein.
C'était il y a deux semaines. Bon, quand même, c'était il y a deux semaines. Bon, quand même, 8-0, ça fait quand même toujours plaisir, ouais. Je pense, pour la confiance. Mais c'est-à-dire que les attaquants peuvent marquer, et comme l'a dit Arnaud, déplacement à la Beaujoire, c'est jamais insignifiant. C'est trois semaines, autant pour moi. Mais c'est toujours très signifiant, un déplacement à la Beaujoire. Donc, à voir.
Ouais, c'est bientôt la fin de cet épisode. Et vous connaissez le rituel, messieurs. il va falloir être attentif aux questions de Julien. Vous l'avez vu, dimanche au Stadium, Radonjić a enlevé son maillot après avoir inscrit le second but phocéen. Le quiz portera donc sur ces joueurs qui célèbrent torse nu, quitte à prendre un carton jaune.
Salut les gars, ça va ?
Ouais, ça va. Ouais.
Salut Julien. Pour le quiz ?
Ouais, chaud, chaud, chaud.
Super émission en tout cas. Bien, bien. À l'UTEF. Bon alors, du coup, malgré cette défaite, on va quand même parler de la célébration de Radonjić, comme tu as parlé. C'est toujours sympa quand même de voir un joueur enlever son maillot, etc. Et même s'il prend un carton, que c'est sanctionné. On aime ces images et ça, mon quiz va vous rappeler, je pense, des très très bons souvenirs. On va commencer à une petite question d'actualité. Il y avait la Copa Libertadores et le buteur dans le temps additionnel a enlevé son maillot. Qui est ce joueur ?
C'est Gabigol.
Gabigol, ouais. Gabriel Barbosa qui a donné la victoire 2-1 à Flamengo. Voilà, il a enlevé son maillot. On va remonter un peu dans le temps maintenant avec le derby de Manchester, le fameux 6-1 où Balotelli enlève son maillot. Qu'est-ce qui a marqué sur son t-shirt ?
Why you with me ?
Why you with me ?
Dans les starting blocks.
In English, yes.
Et moi je l'avais quand il marque avec l'Italie contre l'Allemagne et qu'après il y a eu le même qui a été transformé.
Ah oui,
j'avais ça dans
j'ai hésité entre les deux, mais il fallait choisir un des deux.
Et en interview, il avait dit qu'est-ce que vous voulez que je célèbre quand un postier va mettre des lettres à la poste, il ne célèbre pas. Moi, c'est mon travail.
Ce bandeur.
La prochaine, c'est une masterclass, je pense. Je pense la meilleure célébration d'enlevage de maillot de l'histoire. On est en 16e de finale de Coupe de France en février 2005.
Landreau, non.
PSG Bordeaux. Le joueur rentre en jeu, il se prend un carton jaune, il fait une faute, il marque à la 42e, il enlève son maillot et il se prend un carton rouge.
Un joueur du
qui
PSG.
Est ce joueur ? Un joueur de Bordeaux.
De Bordeaux ?
Un jeune attaquant qui
est 21
ans. Marouane Chamakh.
Ouais. Costaud.
Exactement. Mais c'est clairement, si vous pouvez revoir les images, auditeurs ou même vous sur le plateau, une masterclass de Marouane
Chamakh. Qu'est-ce qu'il faut taper là sur YouTube ? Bordeaux, je sais pas,
vous vous démerdez. Hein, c'est bon, vous savez chercher. Hein. C'est bon. Ensuite, là, c'est question de rapidité. Quel joueur célèbre, bien sûr, en enlevant son maillot, le but en or en finale de l'Euro ?
Trezeguet.
Trezeguet.
Ah là là, non, vas-y, t'as la feuille sous les yeux, toi.
C'était annoncé rapidité. Ça veut dire.
Il l'a eu, il l'a eu. Et puis, bien sûr, je pense que la meilleure célébration dans l'enlevage de maillot, c'est quand on met le maillot devant soi.
Messi.
Un peu comme Messi, Ronaldo ou Fekir l'ont fait. Et il y a un joueur qui l'a fait en octobre 2017 dans un derby de Milan. Il a mis le but de la victoire à la fin du match.
Icardi,
Mauro Icardi,
ouais.
Le joueur actuel du PSG, qui avait mis d'ailleurs ce soir-là un triplé, qui a fait la même célébration quelques semaines avant Fekir d'ailleurs. Et dernière question, là je triche un peu, c'est un joueur qui n'a pas enlevé son maillot, mais qui a failli enlever son maillot lors du barrage
Mendy.
Entre la France et
Sako.
Sako.
Ah,
j'ai confondu,
à ma gauche,
Mendy.
Sako
crise.
Il a eu.
Ah là là.
Quel match Sako, de Mamadou Sako.
Oui. Avec ce visage qui se transforme quand il prend conscience qu'il ne doit pas enlever le maillot, il est formidable.
Il a deux doigts de l'enlever.
Ah, ça fait 3-2 pour toi, là, Gélène.
Ouais, c'est
du
vrai
coup,
que...
c'est une victoire d'Arnaud.
Bravo Arnaud, bravo.
Merci.
Ben merci Julien, voilà, c'est la fin de ce troisième épisode de JT Foot. Un très bon quiz, hein. Merci Julien. Pour nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, ça fait plaisir. Rendez-vous chaque semaine sur toutes les plateformes de streaming, Apple, Spotify, Deezer, ce que vous voulez. Et pour nous suivre, c'est simple, c'est sur Twitter, EJT Foot. Merci à vous, camarades, merci à vous, auditeurs, et à très vite.
Merci, à très vite.